Montréal. Mon nom est Patrick Tellen, je suis concepteur d'interface de jeu ainsi que le producteur et animateur de ce nouvel épisode de Poutine à deux. Ce soir, j'ai le grand honneur, la grande distinction de rencontrer probablement l'une des personnes que je considère comme, oui, soyons honnêtes, l'artisan probablement le plus charismatique, le plus sympathique du domaine du jeu vidéo à Montréal. Et je parle bien évidemment de Osama Dorias. Osama est d'abord un concepteur de jeux senior chez Warner Brothers Games à Montréal. Malheureusement, ce soir, on ne pourra pas parler de sur quoi il travaille actuellement parce que c'est encore dans la brume, c'est encore confidentiel. Mais si on regarde dans le passé, Osama a quand même été impliqué dans des compagnies clés à Montréal. Il a notamment fait des projets VR chez Minority Media. Il a travaillé sur For Honor chez Ubisoft. Et si on regarde un peu plus dans le passé, il a été très impliqué dans le domaine de jeux mobiles chez Gameloft en travaillant notamment sur la franchise Gangstar. Mais parler des jeux développés par Osama, c'est un peu parler de la moitié de l'histoire d'Osama parce que Osama, comme je l'ai sous-entendu en début d'épisode, est très impliqué dans la communauté de développement Montréal, notamment dans n'importe quelle rencontre de développeurs. Vous risquez de voir Osama, donc c'est presque une certitude. Mais il a été aussi notamment le coordonnateur du département de développement de jeux vidéo au Dawson College, toujours à Montréal. Et très récemment, il a été aussi le cofondateur du Festival indépendant ludique de Montréal. Comme le nom sous-entend, c'est bien évidemment un festival de jeux où est-ce qu'on présente la production de jeux indépendants montréalais et où est-ce que nous offrons des prix. Pour mettre un peu de contexte, nous avons beaucoup de développeurs de jeux indépendants à Montréal, mais très rarement nous avons une vitrine locale pour montrer aux gens de la ville qu'est-ce qui est fait dans notre ville. Donc, le but du film était évidemment de mettre ça en place. Finalement, Osama s'est distingué dans les derniers mois en donnant beaucoup de conférences sur la diversité et l'inclusion dans le domaine du développement de jeux. Essentiellement, ces récentes conférences tournent autour de l'identité musulmane dans le contexte du jeu vidéo, comment aborder le consommateur musulman, comment inclure cette culture-là dans nos jeux et autant que possible se décoller assez rapidement de cet archétype malheureusement trop présent du musulman comme étant méchant dans le jeu vidéo. Donc en termes de plan de route, je vous dirais, ça risque d'être assez simple. Donc comme vous l'avez vu, Osama a quand même un cheminement de carrière assez riche, assez diversifié. Donc je suis vraiment curieux quant à sa capacité de jongler avec ces différentes balles-là, je veux définitivement parler de ça. En second temps, j'aimerais beaucoup parler du Festival indépendant ludique de Montréal. C'est particulièrement difficile de partir un grand événement de cette stature-là, donc j'aimerais savoir comment il a mis ça en place, quelles étaient les intentions au début et comment il compte faire évoluer ce festival. Finalement, j'aimerais vous avouer que je suis très curieux quant à sa réflexion derrière sa dernière série de conférences. Je veux savoir d'où est-ce que ça vient, comment qu'il explique sa position sur le sujet. Donc, je compte approfondir ça sous peu. Comme à l'habitude, je vais vous avouer que je commence à avoir faim et les gens qui me connaissent un peu savent que je peux être impatient et désagréable quand je commence à avoir faim. Donc, je crois que c'est une bonne chose que je mette mon matériel dans mon sac et que je fonce vers le restaurant. Et donc, oui, me voilà au Hippie Poutine sur Saint-Denis avec Osama. Est-ce que ça va bien?
Excellent, merci. Et toi?
Très bien, très bien. On va révéler la vérité. Nous avons déjà mangé nos poutines. Quel est-il ton choix de poutine, Osama?
Moi, c'est un poutine au canard.
OK. Pourquoi as-tu opté pour cette option?
Honnêtement, j'ai changé d'avis 3 fois. Tout a l'air bon ici. Je pense que la prochaine fois, je vais avoir quelque chose d'autre, c'est certain.
OK, donc tu vas y opter pour la diversité.
Oui, ouais.
Très, très bien. De mon côté, je t'ai copié. Guerre originale. J'ai dit, ça a l'air d'une bonne option, donc c'est très cool. Hey, normalement, au début d'épisode, on pose des questions par rapport aux origines des gens et tout ça. Histoire de bien te connaître. Donc, on va peut-être y aller avec la base. Où est-ce que tu travailles actuellement? Qu'est-ce que tu fais?
OK. Je suis un concepteur de jeux senior à WB Games, à Warner Brothers, à Montréal. Je travaille sur un projet que je peux rien dire. Tu sais,
mystérieux.
Oui, c'est ça. Ça fait, mais j'ai changé de projet, ça fait pas trop longtemps, ça fait à peu près un mois, mais je peux rien dire de ce nouveau projet. De l'ancien projet, ce que, la seule chose que je peux dire, j'ai travaillé là-dessus pour à peu près un an, c'est un jeu AAA dans l'univers de DC, c'est un jeu open world. Mais okay. Plus que ça, désolé.
Non, c'est des choses qui viennent avec la métier.
C'est ça. Ça fait à peu près 11 ans que je suis dans l'industrie en tant que concepteur de jeux.
Okay.
Je suis un généraliste en principe. J'ai travaillé à Gameloft, à une compagnie qui s'appelle GEE, où on fait des jeux pour avions, à Ubisoft, sur un jeu qui s'appelle Forerunner, mm-hmm. Et à Minority Media juste avant, sur des jeux VR.
OK. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir aussi de ton cheminement, si on va voir ta page LinkedIn, c'est que, comme tu as dit, tu es généraliste, mais tu as eu la chance, sensiblement dans chaque boulot, de te pencher sur un différent aspect du design, une spécialisation différente du design. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est-tu un choix personnel? Est-ce que c'est arrivé de même?
Oui. Je suis une personne qui s'ennuie rapidement. J'adore... apprendre des nouvelles choses. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de différentes comme personnalités. Il y a des gens qui préfèrent devenir des spécialistes et de vraiment devenir le maître d'une des disciplines. Moi, c'est ce que j'aime, c'est apprendre quelque chose que je ne connaissais pas avant. C'est pour cette raison que j'ai commencé dans le jeu vidéo de toute façon. Ce n'était pas ma première carrière. Au début, j'ai étudié sciences politiques et j'ai travaillé en tant qu'agent maritime. Je fréquentais des ports un peu partout au Québec. Un
ça veut
peu
dire
en
quoi,
Ontario.
Agent maritime? T'es un policier des eaux?
Mais vraiment, mon job consistait de deux choses. J'allais sur les navires pour rencontrer les capitaines. Oh. Je leur demandais s'ils avaient besoin de quoi. Et ça peut être n'importe quoi. Des fois, je prenais leur chef à un Provigo pour acheter quelque chose à manger pour le navire. Et des fois, c'était comme... faire comme s'il avait besoin d'un avocat ou quelque chose de ce genre-là, c'est moi qui le portais au navire. Parce que souvent, il n'y avait pas le droit de quitter le navire si je n'étais pas avec eux. Et la deuxième partie de mon job, qui est celle qui a pris le plus de temps, je faisais tous les papiers de douane. Fait que ça, c'était la partie que j'ai aimé moins.
Surprenamment.
C'est vraiment plate. Il n'y avait pas de logique. C'était juste prendre ce qui est dans case 3 et mets-le dans case C et répète pour 100 papiers par navire. Fait que j'ai aimé mon job quand je voyageais. J'ai aimé rencontrer les navires. Mais cette partie du job m'a fait que... Après un an, j'ai quitté. Mm-hmm. Et je voulais faire quelque chose d'autre.
Ça venait d'où, ces études-là en sciences sociales et politiques?
Ça, c'est une histoire drôle.
Okay.
Mais au début, je voulais être architecte.
Ah oui, OK.
Ouais. Et quand j'étais au secondaire, il y avait un projet pilote où ils t'envoyaient, si c'est possible, ils t'envoyaient comme pour voir des gens qui ont le même job que toi.
Okay.
Ils m'ont envoyé dans un studio d'architecture et tout de suite, j'ai changé d'avis.
Quoi? Ça avait l'air ennuyant ou...
Tout le monde avait l'air déprimé. C'est ça. Moi, j'imaginais que j'allais faire des gros immeubles, que ça allait être très beau, mais
oui.
Les gens qui m'ont parlé étaient tous dans, comme, il y avait 50 ou 60 ans. Ils faisaient des toilettes et des appartements. Et j'étais triste pour eux.
Oui.
Et pour cette raison, j'ai changé d'avis. Mais c'est pas que j'ai changé d'avis, c'est que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire.
Mm-hmm.
Fait que je suis allé voir mon père et j'ai dit, regarde, je suis un peu triste. Toute ma vie, je voulais être architecte et maintenant, je sais pas quoi faire. Il m'a dit, qu'est-ce que tu aimes? À l'époque, j'aimais les bandes dessinées, les jeux vidéo et les films. Fait que j'ai dit, je veux faire un magasin. Je veux vendre toutes les choses qui sont là.
Okay.
Il a dit, OK, tu sais, mon père était entrepreneur. Fait qu'il a dit, regarde, je vais rentrer en partenariat avec toi. Toi, tu vas acheter tout ce que tu aimes et tu vas gérer le magasin et c'est moi qui vais payer.
Okay.
J'ai dit, OK, parfait, je ne vais pas à l'université. Il m'a dit, non, tu dois aller à l'université. Fait que j'ai choisi quelque chose que je voulais étudier, mais que je ne voulais pas travailler là-dedans.
Okay,
c'était les sciences politiques.
Okay.
Ça m'intéressait. C'était entre les sciences politiques ou l'histoire. Mm-hmm. Deux choses que j'adorais. Je lisais ça dans mon temps privé, mais je n'avais aucune intention de travailler à ça.
Okay.
Fait que... à moitié chemin dans l'université, mon père a perdu ses entreprises. Il y avait beaucoup de raisons, tout en même temps, mais une des raisons, c'était beaucoup de ces entreprises, c'était des magasins de tourisme.
Okay.
Et c'était September 11 qui était arrivé juste en milieu.
Oh boy.
Et le tourisme à Montréal est vraiment comme descendu.
Okay.
Et il y avait d'autres entreprises, mais il ne faisait pas assez d'argent pour payer pour les loyers de cela. Fait que, il a fait faillite et j'ai continué dans mes études en sciences politiques. Et à la fin, je n'avais pas le choix que de travailler dans ça. C'était la seule chose que je connaissais.
Oui, parce que le magasin de BD, jeux vidéo, c'était plus dans les plans, malheureusement.
Non, absolument. Je n'avais pas d'autres plans. Fait que, non, ça m'a pris 2 ans, mais j'ai made peace with it. Je ne sais pas comment dire.
Oh, tu étais en paix avec ça. Tu as dit, bon, c'est la vie, je vais essayer de m'en sortir.
Exact, exact. Fait que, après un an, j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai dit, regarde, quand j'étais très jeune, je faisais les sites web pour les entreprises de mon père.
Okay.
Fait que j'ai commencé à être un freelance graphic et web design. J'étais 100%, je l'ai appris moi-même. J'ai acheté un livre qui c'était Learn How to Make Websites in 21 Days.
Wow. Okay.
Et j'ai lu en 3 jours. Et à la fin, j'ai fait des websites avec pour l'entreprise de mon père et ses amis.
OK.
Fait que j'étais quand même assez bon. Mais dans la première année que j'ai fait ça, je suis devenu professionnel, honnêtement. Ce que je faisais, c'était quand même très bon. Et, mais le problème, c'est que j'avais pas des clients qui se revenaient. Okay. Il faut toujours que je cherche des clients. Mais au moins, ça m'a appris comment faire du Flash, du JavaScript, etc. Et tout au long, je faisais des niveaux pour des jeux comme Unreal Tournament ou StarCraft ou Warcraft. Fait que j'aimais ça. Et maintenant que je sais comment faire, je faisais des jeux en Flash. C'était vraiment des jeux pourris, mais c'était quand même des jeux. Ouais.
Justement, à cette époque-là, avais-tu déjà envisagé de travailler professionnellement dans le jeu vidéo ou c'était un rêve distant?
J'ai même pas pensé que c'était possible.
Okay.
Mais là, un de mes amis qui a étudié l'histoire a eu un job à Gameloft.
Okay.
Et ça a changé mon avis tout de suite. J'ai dit, OK, si lui, c'est capable qu'il fait ça avec son histoire, moi, je peux faire ça avec mon science politique et mes jeux mauvais de Flash.
Au moins, t'avais des jeux, toi. Au moins.
Exact. Fait que j'ai pris 6 mois en appliquant un peu partout et en comme... bâtir un portfolio qui avait un peu de sens. Mais un an après que j'ai commencé, j'ai eu mon premier appel, c'était de Gameloft. J'ai eu mon premier entrevue, c'était mon seul entrevue.
Okay.
Et j'ai eu le job.
Okay.
Fait que qu'est-ce qui était vraiment drôle, c'est qu'ils voulaient un expert de poker.
Okay.
J'ai joué un peu, mais j'étais pas expert.
Okay.
Mais je les ai dit, oui, je suis un expert de poker.
Oh non.
Non, mais c'était correct parce qu'ils ont dit il y a un test vendredi.
Oh.
Fait que j'ai acheté 5 livres de poker et j'ai pas dormi pendant 4 jours.
Oh mon Dieu.
Mais j'ai passé le test au complet. Fait que c'est à la fin. Qu'est-ce que ça m'a donné? C'est j'avais très peur pendant les premières quelques semaines et même les premiers quelques mois qu'ils vont voir que j'étais pas vraiment un expert.
OK, le bon vieux syndrome de l'imposteur.
Exact, ben, ouais. Mais x2, peut-être x100. Parce qu'en plus, j'étais pas designer.
Okay.
Je savais pas comment être un designer, j'étais un junior et j'étais pas un expert de poker.
Okay.
Et j'avais les deux jobs en même temps. Parce que j'étais le seul designer sur mon premier projet. Fait que j'avais même pas quelqu'un là pour me montrer quoi faire.
Oh, mon Dieu.
J'ai designé un AI de poker au début dans Excel parce que je savais pas c'était quoi un AI. Et tout seul, j'ai trouvé que, oh non, il faut le faire dans Visio. Parce que j'avais des salles qui étaient en cours. Comme ça, c'est quelque chose de vraiment spécifique pour le jeu, le design, la conception de jeu. Mais un AI dans Excel, ça fonctionne vraiment pas. Et j'avais un système où j'ai coloré des cases pour me dire où, qu'est-ce qui est connecté avec quoi. Et à la fin, j'ai retrouvé, regarde, c'est juste un flowchart que j'ai besoin, ça va aller beaucoup mieux. Et à la fin, on a mis mon AI et ça a gagné un prix. Fait que j'ai mis beaucoup d'efforts. J'ai travaillé comme 16 heures par jour parce que j'avais de l'imposter syndrome, mais c'est normal quand on a ça au début, qu'on va mettre beaucoup d'heures là-dedans. Et c'est ça, fait que c'était le début de ma carrière à Gameloft. À la fin, après 3 ans, j'ai dit à mon boss, regarde, j'étais jamais un expert. Il a dit, oui, je sais. Je le savais le premier jour, bien sûr, mais on ne veut pas quelqu'un qui est un expert de poker. Qu'est-ce qu'on va faire avec pour le deuxième jeu?
Oui.
On veut quelqu'un qui peut devenir un expert de poker. Parce que mon deuxième jeu, après, c'était Midnight Pool pour le Wii. C'était un jeu de billard.
Oui.
Et j'ai fait la même chose. J'ai acheté 5 livres de billard. J'ai appris ça. J'ai pratiqué avec mes amis. Je suis devenu un expert. Et tous les autres projets après, j'ai suivi la même philosophie.
C'est très bien. Là, justement, bon, t'as fait Game Loft, ensuite, t'as été un peu plus dans le domaine de la console, c'est ça?
Non, après Game Loft, je suis allé, j'ai travaillé à une compagnie qui s'appelle GE. On a fait des jeux pour avions.
Okay.
C'est des jeux que tu vois. Et après ça, j'ai travaillé à Ubisoft
sur
un jeu de console qui s'appelle For Honor.
Okay.
Et après ça, sur le VR. Et là, je suis revenu au jeu de console.
Sinon, bon, tu l'as mentionné au début, t'aimais les BD, t'aimais les jeux vidéo, donc j'imagine que t'as été un peu en contact avec ça étant jeune.
Absolument.
Justement, quels ont été tes jeux cultes, tes bandes dessinées cultes?
Mais moi, dès que j'avais 12 ans, j'avais commencé à collectionner tous les bandes dessinées X-Men.
OK.
J'avais une collection de 1991 jusqu'à 2001, tous les bandes dessinées X-Men, tout, même les spin-offs.
OK.
Fait qu'il y avait deux séries et d'autres séries c'était un armoire complet de boîtes de bandes dessinées. Ça, c'était comme... C'est la bande dessinée que j'ai adorée le plus.
Okay.
Mais c'est pas le seul. Bien sûr, j'ai collectionné tout. À un certain point, je me suis intéressé aux bandes dessinées européennes aussi.
Mm-hmm.
Il y a un en particulier que j'adore qui s'appelle Black Sad.
Oui.
Tu le connais?
Oui, absolument.
Okay. Excellent. Ouais, mais j'ai adoré ça. Mais tout. Je suis en train de lire beaucoup de bandes dessinées qui sont pas de super-héros aussi. J'adore comme Why the Last Man et j'adore... quoi d'autre? Mais 100 Bullets, c'est peut-être un de mes favoris. Je suis toujours en train de lire quelque chose.
As-tu une raison pourquoi tu apprécies particulièrement ce médium-là?
Les bandes dessinées?
Ouais.
Mais regarde, tous les médiums ont leurs forces et leurs faiblesses. La bande dessinée, et c'est entre les panneaux, on peut vraiment avoir notre propre imagination de la suite des actions. Aussi, c'est vraiment pas cher, par exemple, de faire exploser une planète en bande dessinée.
Oui, non, c'est cette-là.
Fait qu'il y a beaucoup d'histoires qui peuvent se raconter dans l'espace d'une façon vraiment pas chère. Mm-hmm. Fait que pour cette raison, il y a des histoires qui s'adaptent mieux aux bandes dessinées que dans d'autres médiums. C'est ça que... En travaillant dans le jeu vidéo, si on travaillait avec des écrivains qui venaient d'autres domaines, on avait un peu de misère de les expliquer ses forces et ses faiblesses. Par exemple, nous, une conversation, c'est cher.
Mm-hmm.
Mais faire exploser un hélicoptère, c'est pas cher.
Oui.
C'est pareil, c'est l'inverse dans une émission télévisée. Fait qu'on avait beaucoup d'écrivains qui travaillaient avec nous, qui limitent les interactions d'action et qui met beaucoup de dialogue, parce que pour la télé, c'est ça qui est cher.
Et ça vient à l'encontre de ce qu'est le jeu vidéo, mais complètement. Là.
Exact. Les bandes dessinées, c'est pareil. Trop de mots, c'est plate.
Mm-hmm.
Fait que show, don't tell, ça s'applique beaucoup aux bandes dessinées. Tout, et pour les livres, c'est comme un peu l'inverse, parce que show dans les livres, c'est tell. C'est la même chose. On doit vraiment t'expliquer que t'es entré dans un univers et c'est quoi les détails de l'univers. Tout ça, ça se montre dans une image dans les bandes dessinées. Et le reste que tu peux pas voir, ton imagination va le couvrir. C'est correct. Un world building, ça se fait dans tous les médiums, mais chaque médium a sa propre force.
Définitivement. Et sinon, quels sont tes grands classiques de jeux vidéo?
Ah, mais j'en ai beaucoup trop et ça change aux semaines, mais je vais en choisir quelques-uns. Les deux jeux ou les deux franchises qui m'ont fait que je voulais rentrer dans le domaine de jeux vidéo, je dirais que c'était Final Fantasy, spécialement les Final Fantasy sur SNES, le 4 et le 6, et les Street Fighter.
Okay.
Et c'est bizarre parce que un, c'est un jeu d'un seul joueur et c'est un RPG, et l'autre, c'est un jeu de combat. Mais je les aime pour la même raison. Je les aime parce que les personnages sont vraiment bons.
Okay.
Ils ont beaucoup de backstory. Même si Street Fighter, c'est un jeu de combat où on voit presque pas... On n'a pas beaucoup de temps pour développer les personnages, tout le développement se passe dans leur character design. Fait que dans la conception des personnages. Et on peut le voir, c'est visuel. Et on peut le voir dans les interactions entre les personnages. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Et pour Final Fantasy, tu vis ce développement de personnages. Fait que pour moi, le narratif était toujours... la chose favorite, c'est les histoires, c'est les mondes, c'est les personnages. Et c'est pour cette raison que ces deux jeux, je dirais, ou ces deux franchises sont mes favoris.
Non, absolument. Puis ton fait à propos de Street Fighter est très intéressant parce que ça rejoint un peu ce que tu disais que la BD, il y a beaucoup de show don't tell dans Street Fighter.
Absolument.
C'est effectivement tel personnage, pourquoi Blanca est vert, les cheveux dressés sur la tête, ainsi de suite. C'est super intéressant. Et souvent, c'est un aspect des jeux de baston qu'on parle pas vraiment. Tu sais, souvent, on se concentre sur le combat, la stratégie, ainsi de suite. Mais particulièrement Street Fighter, c'est vrai, il y a un soin très fort qui a été là-dedans. Là.
Mais si tu regardes dans les détails, même Ryu, Il y a les manches déchirées. Mm-hmm. Ken aussi, il n'y a pas de manches, mais ils ne sont pas déchirés. Mm-hmm. Parce que Ryu est un vagabond, il n'est pas riche, mais Ken, il est un millionnaire. C'est mm-hmm. des petits détails comme ça que même deux personnages avec le même costume, ils racontent une histoire. Comme Ryu, son peau est plus foncée que Ken. C'est parce qu'il est vagabond, il est toujours dans le soleil, il est en train mm-hmm. de marcher d'une place à une autre. C'est, les couleurs de son kimono sont toujours un peu sales mm-hmm. pour la même raison. Ce n'est pas mm-hmm. blanc, mais c'est un blanc un peu jaunâtre. Et Ken, non, c'est des couleurs vives. Fait que pour moi, ça, les détails, c'est pareil pour les personnages de Final Fantasy. Quand tu le regardes, les détails des personnages, tu vois que, oh, lui, il vient d'une famille riche. Et, lui, et c'est dans les détails qui vont montrer leur force.
Et si on regarde dans les jeux plus récents, les jeux plus modernes, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué ou qui t'inspire beaucoup comme créateur de jeu?
Oui, mais c'est sur le même sujet de personnages, j'adore Overwatch pour cette raison.
Oui.
Il y a beaucoup de diversité sur... Il y a un personnage qui a l'autisme, il y a des personnages homosexuels, il y a des personnages qui viennent de tous les pays, qui parlent les langues de ces pays. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'est... Chaque personnage, il y a une très bonne silhouette. Mm-hmm. On peut le reconnaître de très longtemps. Une voix vraiment particulier, fait qu'on peut, on va pas mélanger deux personnages jamais. Il y a un style de jeu vraiment différent. C'est à chaque personnage dans Overwatch, on peut faire un jeu juste pour eux avec leur mécanique et c'est pas semblable à un autre personnage. C'est incroyable comme défi qui ont pu mettre tous ces personnages dans le même jeu mm-hmm. et réaliser un style artistique cohésif.
Mm-hmm. Ouais,
c'est absolument. Incroyable. Ça m'inspire beaucoup. J'espère un jour de faire mon propre Overwatch.
Sur ça, je te propose de prendre une petite pause.
Excellent.
On va parler d'autre chose. Donc, un autre truc qu'il faut savoir à propos de toi, Dasama, c'est oui, tu travailles, tu es passionné, mais ma foi, j'ai jamais vu ça. Tu as un horaire plein. Tu travailles sur 15 000 affaires. Et bon, un des trucs dans lequel tu t'es impliqué dans les dernières années, qui je trouve est très important pour le milieu montréalais, c'est le film. Donc, le Festival international ludique de Montréal.
Exact. C'est exactement ça.
Moi et les abréviations, des fois. D'abord, il y a festival, il y a international, il y a ludique, Montréal. Qu'est-ce que c'est ça, là?
Mais honnêtement, j'ai commencé ça avec mon partenaire Salim Larochette, que je pense mm-hmm. qu'il était sur ce podcast dans
oui,
le passé.
Oui, absolument, on l'avait déjà reçu.
Excellent. Moi, Salim, on ne voulait pas faire un festival au début. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire, c'est des prix. Pour les studios indie à Montréal, okay. qui étaient nos amis. Okay. On pensait que les jeux qui étaient faits à Montréal étaient vraiment, vraiment bons, mais d'autres pays, d'autres villes qui ont une plus petite communauté de jeux indépendants avaient des festivals et nous, non. Fait que c'était une manque et c'était dommage. Fait que on a demandé à beaucoup de différentes institutions si on peut, dans le cadre de leurs événements, si on peut faire un si on peut donner des prix, si on okay. peut.
Ouais. Toi, tu voulais t'éloigner de l'idée de dire « on va faire notre nouvel événement à nous et exact. Encore diviser la communauté ».
Exact. À l'époque, c'était vraiment notre plan. Mais... personne ne nous connaissait. Ouais. Fait que personne ne savait pourquoi c'est nous qui allions commencer ça et pas eux, par exemple. Ou il y a d'autres institutions qui n'étaient pas prêtes.
Okay.
Ou leur événement, ils ne pensaient pas que c'était un bon fit. Fait okay. qu'après avoir reçu 4 ou 5 noms, on a dit « regarde, moi, à l'époque, j'étais professeur à Dawson College, lui aussi. Mm-hmm. Fait qu'on avait des ressources à Dawson. On peut faire un festival pas trop cher. Ça fait 4 ans qu'on a commencé cette initiative. Fait qu'on dit, regarde, on va commencer avec un petit festival et on va voir qu'est-ce que ça donne. On va apprendre. On va en prendre une salle qui a une capacité de 200 personnes parce que on pense pas qu'on va avoir plus que ça. On n'a aucun budget pour du marketing, etc. Fait qu'on a contacté nos amis qui étaient des indies, on les a invités. On avait juste 20 tables, parce que la salle avait juste la place pour 20 tables, mais on avait 60 personnes qui ont appliqué pour montrer leur jeu.
OK.
On n'avait certainement pas accès à leur donner 60 tables. Fait qu'on a divisé les tables en deux et on a accepté 40. Mais on a dit, regarde, vous allez être 40 studios et vous allez avoir peut-être 200 personnes qui vont venir. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez venir? Et on dit, OK, oui, parce que tout le monde voulait faire partie des prix aussi mm-hmm. pour avoir une chance de les gagner. Fait qu'on a trouvé des juges qui faisaient partie de la communauté de jeux vidéo déjà, des gens respectés déjà. Et on a on avait 40 studios et on a reçu presque 1000 personnes qui sont venues à l'événement.
Wow, okay.
Sans, vraiment, on n'a fait aucun marketing. C'était juste sur Facebook à nos amis. Et on a demandé aux gens, les exposants, wow, de demander leurs amis et leur famille de venir. C'est tout. Mais il y avait comme quelqu'un sur le Westmount Post, parce que Dawson est à Westmount, dans la région de Westmount à Montréal. Fait que quelqu'un dans Westmount Post a écrit un article sur nous et c'était assez pour apporter 1000 personnes.
Wow.
L'année après ça, on a grandi, on a pris 60 tables, on a eu presque 100 personnes qui ont appliqué,
wow,
et on a eu 2000 personnes qui sont venues.
Wow.
Fait que, mais nous, notre goal, toujours, c'était juste de faire les prix et pas un festival. Fait que aussitôt qu'il y avait un autre festival qui a commencé à Montréal, qui était plus grand ou qui avait le potentiel d'être plus grand que nous, on est allé leur parler, on les a dit, regarde, on veut juste faire les prix dans votre festival. Eux, ils étaient vraiment surpris, je crois, mais vraiment, ils ont accepté. C'est, le festival s'appelle le Mega,
mm-hmm,
The Montreal Expo Gaming quelque chose. Je suis pas bon avec les abréviations non plus.
Mais pour être honnête, à ta défense, à chaque fois qu'on parlait du Mega, on disait juste le Mega. Il y a ça, jamais vraiment personne qui a pris la peine de déclasser cette abréviation-là.
Ça existe quelque part, je pense, dans une affiche quelque part.
Inquiète-toi pas, on va en entendre parler probablement.
Certainement. Ils vont me contacter juste après pour me dire
oui,
c'est quoi.
Oui, c'est ça. Sapristi, Osama.
C'est ça. Fait que maintenant, on est revenu à qu'est-ce qu'on voulait faire dès le départ.
Okay.
Mega avait plus que 5000 personnes qui sont venus, oui, l'année passée. Ils s'attendent à presque 10 000 personnes cette année. On sait jamais, mais ça a l'air que Montréal, vraiment, c'est une bonne place pour ça. Il y a beaucoup de gens, comme à Comic-Con, ils ont 40 et 50 000, peut-être, mm-hmm, 60 000, je ne sais pas combien de personnes, mais il y en a beaucoup. Fait que, les jeux vidéo, c'est aussi grand que les bandes dessinées, peut-être plus grand. Moi, je dirais beaucoup, beaucoup plus grand, mais anyway, c'est... j'ai un peu de bias, fait que c'est normal.
Ouais,
que
on va rester ça conservateur.
Exact. mais fait qu'il y a beaucoup de potentiel et on va continuer comme ça. Après les années les années après la première, au lieu de contacter des individus pour être des juges, on a contacté d'autres membres de la communauté, des groupes de membres de la communauté, okay, comme Poutine à deux.
Ah, tiens donc, drôle de coïncidence.
Vous étiez là l'année passée.
Oui.
Avant, l'année d'avant, c'était les jeux sont faits seulement.
Oui.
Et on va continuer ça si vous êtes prêts à revenir.
Plaisir. Justement, ça vient d'où cette volonté-là d'impliquer davantage les gens de la communauté au lieu de faire venir des grosses pointures de l'industrie? Ou, hein?
Honnêtement, la vraie raison, c'est parce que c'est juger des prix, c'est subjectif. C'est
absolument
pas quelque chose... Ouais, exact. Et on voulait pas nécessairement avoir... les gens de la communauté de jeux vidéo de Montréal qui sont dans l'indie ont tous leurs propres projets.
Mm-hmm.
Et s'ils deviennent juges, ils peuvent pas juger leurs propres,
ouais,
jeux. Et la première année, on avait quelques problèmes avec ça. Je dirais pas que c'est des problèmes, mais c'est juste... C'est plate. C'est pas quelque chose...
Dehors du monde qui bavarde ensuite, on, ouais, sait bien lui parce que...
Ouais.
Blablabla.
Et c'est vraiment... incestueux?
Non, mais c'est incestueux parce, ouais, que, comment je pourrais dire, on a un gros milieu à Montréal, mais on va se l'avouer sensiblement. Tout le monde se connaît.
Oui.
Si on fait une réunion du Montreal Game Society et après ça, on fait un truc avec un autre groupe, c'est sensiblement le même monde qui va se présenter.
Exact,
donc,
exact. Et c'est, tout le monde est des amis d'autres. Fait que ça devient un popularity contest, un contest,
oui,
de popularité,
peu,
ça se dit. fait que qu'est-ce qu'on voulait, c'est trouver des instituts qui sont quand même déjà en train qui sont déjà partis de la communauté,
oui,
et qui sont en train de regarder des jeux de toute façon,
oui,
de leur propre volonté et qui sont en principe déjà neutres.
Oui.
Fait qu'en leur incluant, on sait que même si c'est subjectif, c'est juste plus juste comme ça.
Mm-hmm. Puis comment ça s'est passé, tout ce processus-là de création de festival? Comment tu fais ça au début? Parce que bon, tu commences, il n'y a rien. Là,
ouais,
tu l'as dit, tu n'avais pas de moyens ensuite. Comment tu as bâti ça?
Mais tu le fais très mal.
Et tu apprends.
Exact, tu apprends. Tu évalues qu'est-ce qui n'est pas bien allé.
Okay.
On avait un an que... notre deuxième année, je pense 15 minutes avant qu'on a commencé le festival, on a perdu le courant pour
oh
la moitié du festival.
Wow.
On a couru un peu partout, on a déplacé quelques tables. C'est parce qu'on ne savait pas qu'on devait faire attention à Dawson. On pensait qu'il va avoir assez d'électricité.
Oui.
Ils ont beaucoup d'événements. C'est vrai, mais on a mis trop d'ordi sur les mêmes prises et on n'a pas... on a demandé à tout le monde d'apporter juste une installation,
oui,
mais on n'a pas vérifié qu'ils ont apporté juste une installation.
Okay.
Fait qu'il y avait beaucoup de de compagnies qui ont apporté comme genre 3 PlayStation avec des télés, etc. Mais on les a vus le faire, mais on a comme dit, oh, OK, c'est correct.
Ça tient le coup, c'est correct.
Exact, c'est pas la fin du monde. Et non, ça fait que ça fait éclater ça. Fait qu'on, c'est, y a beaucoup de stress et il y a beaucoup de fautes, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est se rappeler c'est quoi le but. Et le but pour nous, c'était que les exposants, les projets ont accès aux communautés. Comme, pas le comité de jeux vidéo, mais comme aux gens de Montréal pour pouvoir leur montrer leurs jeux. Si on fait ça, on est content. Fait qu'on n'a presque pas de budget. On dépense juste sur les choses qu'il faut dépenser. Et on a approché des studios qui n'allaient pas se présenter avec des jeux et on les a demandé pour un peu de subvention juste pour couvrir les quelques frais qu'on avait. Mais vraiment, le plus grand, l'aide le plus grand qu'on avait eu, la deuxième année, par exemple, c'est qu'on a trouvé une compagnie, Autodesk, qui a juste acheté tous les prix. Ils ont dit, OK, on va payer vos prix. Et pour le remercier, on les a donné un prix Autodesk qui pouvait donner à un studio qui a utilisé leur engin, leur logiciel. Fait qu'on trouve des petites choses comme ça pour le couvrir, mais c'est non-profit, on n'a pas fait de l'argent là-dessus et c'était pas l'intention. Fait que si on a des standards un peu bas, on peut les atteindre et on va les dépasser même.
Oui, mais déjà, je trouve que c'est très bien votre démarche parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a une grande ironie là-dedans. Souvent, quand on regarde la production de jeux à Montréal, moi le premier, j'ai pas la vision complète de ce qui est fait à Montréal. Souvent, ici et là, on apprend que ce jeu-là est développé à Montréal, et ainsi de suite. Ça, je trouve ça une grande ironie. Puis si en plus, on pense l'exemple du Méga, juste pour donner une référence aussi à nos auditeurs, le Méga, l'année dernière, c'est combien de personnes qu'ils avaient reçues?
Presque 5 000 personnes.
Et 5 000, et ils ont repoussé des gens à l'entrée. Oui, parce qu'il y avait un règlement contre les incendies et ça allait à l'encontre de ça. Pour moi, c'est très important parce que beaucoup de personnes qui venaient, oui, c'est des fans de jeux vidéo, mais c'est pas des développeurs comme nous. C'est pas ce milieu-là, hein, c'est sûr, comme on disait tantôt. Et à date, on n'avait pas vraiment d'événement grand public pour montrer les jeux locaux. Il y avait une grande ironie là-dedans. En tout cas, je suis très content que vous ayez fait ça. C'est très utile. Avez-vous des plans pour le futur sans non plus vendre la mèche cette année? As-tu des idées sur comment tu aimerais améliorer la recette?
Oui, on a quelques idées, mais je suis pas sûr si on va en parler parce que je suis pas sûr si on va les mettre en pied. Mais pour le moment, et je pense pour le futur, on va rester avec Mega parce que c'était une très bonne relation qu'on a bâtie avec eux. Et on croit dans ce festival, on pense que ça va devenir très grand et très bon.
Non, puis ça devait être très utile aussi pour eux de vous autres arriver déjà avec votre recette qui fonctionne bien, vos développeurs, tout ça. Donc, pour eux, ça doit être aussi un grand atout de vous avoir.
Absolument. Nous, qu'est-ce qu'on voulait toujours, à partir de notre mandat, c'est que c'était gratuit pour les exposants et gratuit pour les gens qui viennent. Une des conditions qu'on a gardées avec Mega, c'est qu'ils nous donnent au moins un certain nombre de tables qui vont rester gratuites pour les exposants. Et c'est nous qui choisissons qui va rentrer là-dedans avec un... comme on regarde les jeux dès le départ. C'est comme les prix... Les tables, c'est comme des prix avant les prix. fait que c'est ils étaient vraiment contents de nous donner ça. Fait que beaucoup des exposants étaient là à cause que nous, on était là et on les a invités de venir aussi. Fait que comme tu as dit, c'est mutuel. On est content d'être avec eux et j'espère et je pense qu'ils sont contents qu'on est avec eux aussi.
Ce que j'ai entendu à date, ça a l'air de ça. Pas nécessairement pour parler de ta compétition dans le domaine des festivals, mais avais-tu vu d'autres festivals dans le monde que tu trouvais intéressants dans le domaine du jeu vidéo? As-tu des exemples?
Je suis allé à Casual Connect en Californie. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais le focus était plus sur les jeux mobiles.
Oui.
Il n'y a rien de mal dans ça.
T'as intérêt à dire ça.
Mais j'ai déjà travaillé dans le jeu de mobile.
C'est vrai.
Mais c'était quand même intéressant parce que je pense que c'est le seul festival qui a ce focus. Je suis allé à un festival, je ne me rappelle plus du nom, mais il y avait un festival à Montréal qui était dans le cadre de Montréal Joue, qui était juste pour les jeux de société. Parce que j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel, vraiment cool. Je pense que c'était juste Montréal Joue. Je pense pas qu'il y avait leur propre nom. Je suis allé à beaucoup d'autres festivals aussi, comme le IGF à San Francisco. Mais c'est immense, c'est vraiment grand. Le seul que je voulais aller, que j'ai pas eu la chance, c'est Boston Festival of Indie Games. Je suis presque allé 3 fois.
À chaque fois, il y a quelque chose qui s'est présenté.
Ouais, c'est ça. Zut. Avec le travail ou avec quelque chose d'autre que j'ai pas pu y aller. Mais je suis ami avec l'organisateur, fait qu'on s'échange des notes. Il est vraiment cool. Je l'ai rencontré à San Francisco il y a quelques années. Et eux, ils avaient presque les mêmes démarches que nous, mais eux, ça fait, je pense, 10 ans qu'ils font ça.
Okay.
Ouais. Ils sont passés d'un festival de 200 personnes leur première année. C'est de là qu'on a eu notre idée qu'on va commencer avec 200 personnes l'an passé.
C'est ça votre référence.
Exact, parce qu'eux, ils l'ont fait en MIT, dans une école.
Okay.
C'était gratuit pour tout le monde. Il y avait 20 exposants. Ils ont eu 200 personnes. Fait qu'on est vraiment avec zéro budget. Fait qu'on a pensé qu'on va commencer comme eux. Mais eux, ça fait 10 ans. Nous, ça fait 4 ans. Fait que ça change les choses. Et maintenant, ils sont rendus, je pense, l'année passée, ils ont eu 15 000 personnes qui sont allées.
Wow.
Fait que ça a grimpé vite. Et nous, ça a grimpé encore plus vite. Comme je dis, on a plus de studios et on a plus de gens. Boston, comme ville, une population, la moitié de celle de Montréal. Et en tant que studio de jeux vidéo, c'est un dixième.
Non, il y a des grands studios là-bas. On va pas dire le contraire, mais effectivement, moi, c'est tout le temps le côté indépendant de Montréal. Tu tournes la tête dans un parc, il y a un nouveau studio qui est fondé. C'est fou. Donc, ouais, non, effectivement, si Boston réussit de même, il n'y a aucune raison de croire que ça n'arrivera pas pour Montréal. Là.
100%.
Cool. Encore une fois, je te proposerais de prendre une pause, histoire de digérer un peu, et ensuite d'aller vers le dernier segment.
C'est parfait, merci.
Cool. Nous voilà de retour. Ça va toujours bien, Samant?
Absolument.
Tout bien, fantastique. Le dernier truc que j'aimerais te parler, puis ça, c'est une démarche qu'on a beaucoup moins vue à Montréal et que je vais être honnête avec toi, je suis très heureux de voir à Montréal. C'est vraiment récemment, tu as fait beaucoup de conférences et de présentations sur la diversité dans les milieux de développement de jeux. Pourrais-tu parler justement de qu'est-ce que tu as fait?
Absolument. Mais honnêtement, ça fait des années que j'essaye de commencer de parler de ça. Mais c'était difficile pour plusieurs raisons. Fait que c'est le climat aux États-Unis, je pense, qui a fait que les gens étaient plus réceptifs à écouter. Parce que je parle de diversité en général, mais en spécifique, je parle de la représentation des musulmans dans les jeux ou des arabes, etc., ou des gens de couleur. Ça se dit en français, je suis pas sûr.
Oui, non, absolument. T'as pensé personne à date, c'est bon, on continue.
Excuse-moi, les expressions, je suis habitué de les dire en anglais.
Non, puis pour être honnête, souvent, c'est aussi des appellations un peu plus délicates, des fois, où il faut que tu fasses plus attention, mais c'est un super bon terme.
Fait que si je dis quelque chose de mauvais, je m'excuse dès le départ. Le français, c'est ma troisième langue.
Oui.
Je me débrouille, mais des fois, je fais des fautes.
Non, c'est ça. Légalement, c'est moi le responsable. Donc, vous avez des coups à donner. Je donnerai une adresse email à la fin de l'épisode.
Mais c'est ça. Fait que j'ai présenté mon premier conférence à un événement à Toronto
qui
s'appelle Damage Camp.
Oui.
Et c'est fait vraiment pour des sujets qui sont normalement pas abordés. L'événement est fait pour ça.
Donc, tu me dis qu'ils parleront pas de comment faire de la monétisation avec un jeu free-to-play.
Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment comment... Il y a des choses quand même qui sont plus dans le craft de faire des jeux.
Oui.
Par exemple, comment est-ce que vous pouvez faire que votre jeu va être plus abordable pour les gens qui font du speedrunning ou des choses.
Okay.
Ils font quand même des sujets comme ça, mais la majorité du temps, c'est vraiment un point de vue qui n'était pas exprimé avant. C'est le but de leur conférence. C'est pas une immense conférence. Je pense 200 personnes qui sont là à la fois, mais c'est vraiment important comme conférence.
Absolument.
C'était la première conférence à m'inviter de parler. Et c'est là que c'était une excellente expérience. C'était la première fois que j'ai fait une conférence. Après ça, le MIGS a accepté que je parle. MIGS, c'est le Montreal International Game Summit. C'est la plus grande conférence à Montréal. Le plus grand événement de jeux vidéo à Montréal, je dirais. Et après ça, c'était comme le monde. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là au MIGS qui m'ont invité à aller au Casual Connect pour parler ou dans d'autres événements. Et maintenant, il y a une très forte probabilité que je vais aller à Prague. Je n'ai pas dit oui encore, mais on va voir. Et l'année passée, peut-être en Téhéran, on va voir. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour voir si je serais intéressé à ça. Mais j'ai déjà parlé au plus grand événement de jeux vidéo au monde, qui est le GDC, et ça a eu un très grand impact. Jusqu'à date, il y a beaucoup de musulmans qui me contactent, qui me remercient, et des personnes qui ne sont même pas musulmans, qui sont juste très contents que je parle de ce sujet. Il y a des compagnies qui me contactent pour me demander mon avis sur des personnages qu'ils veulent mettre dans le jeu. Parce qu'en général, en principe, le sujet que j'aborde, c'est que, regarde, les musulmans, on est comme vous, et personne nous montre.
Sérieusement?
Ouais, c'est vraiment.
C'est
juste
une déconcert.
On est juste des humains. Il y a des mauvais, des bons, comme dans tout le monde.
Oui.
Et on veut juste représenter. Parce que si La seule histoire qu'il raconte, c'est celle des méchants, mais ça n'aide personne, honnêtement. Moi, j'ai jamais pensé que j'allais travailler dans le domaine des jeux vidéo parce que je me suis jamais vu dans les jeux vidéo.
Ouais, parce que pour être honnête, en tout cas, fut une certaine époque, tu regardais des documentaires de développeurs de jeux vidéo, ben c'était des blancs caucasiens qui faisaient des jeux dans la trentaine, hétérosexuels probablement, et ainsi de suite.
Absolument. Quand j'ai commencé dans l'industrie aussi, c'était ça à 95%. Mm-hmm. Maintenant, c'est beaucoup mieux, mais je dirais même pas que c'est bon encore, mais c'est beaucoup mieux. C'est ça qui est important, c'est qu'on va dans cette direction où on ouvre ça et on va avoir des jeux plus variés et des jeux plus intéressants. Il y a un cas d'affaires pour faire ça aussi.
Oui, absolument.
C'est pas juste pour... Mais des raisons éthiques, c'est déjà bon, mais c'est pas juste pour ça. Il y a beaucoup de jeux comme que j'ai mentionné avant, Overwatch. Overwatch est vraiment populaire autour du monde à cause de cette représentation.
Mais parler de Street Fighter aussi, je sais qu'il y avait ajouté un personnage d'origine arabe aussi, parce qu'il y a une grosse scène de Street Fighter dans le monde arabe.
C'est immense. Oui. Ouais. Et plus qu'un personnage arabe, il y a un personnage turc qui est vraiment très rare dans... Je peux pas nommer un autre personnage turc dans un jeu vidéo.
Non, moi aussi, j'aurais de la misère, probablement. Est-ce que, de ton côté, dans la présentation, tu présentais aussi potentiellement des stratégies pour faciliter la diversification du contenu?
Absolument. Absolument. La conférence que j'ai donnée à GDC s'appelle le How-To Guide. Fait que je donnais vraiment des exemples qui sont bons, des situations et je répondais à des questions que les gens pourraient avoir. Par exemple, une des premières choses que je dis toujours dans les présentations, c'est que si vous avez des gens déjà qui sont musulmans dans vos équipes, il faut les parler.
Oh, bien sûr.
Il y a tout le monde... j'ai déjà vu des situations où des gens avaient peur de me demander des questions parce qu'ils pensaient que j'allais me fâcher de ces questions. Le problème, c'est que si vous ne me demandez pas et vous représentez des musulmans d'une mauvaise façon, je vais être plus fâché. Et disons même si ce n'est pas le cas, disons même que je me fâche à cause de votre question... Je vais récupérer assez rapidement.
Oh oui.
Mais si vous me représentez d'une mauvaise façon dans un jeu, ça va durer plus longtemps.
Oh oui.
Ça, c'est un des exemples des conseils que je donne dans la présentation. Je montre d'autres... j'utilise des exemples d'autres films... d'autres médias, comme des films ou des bandes dessinées, où je dis, regarde, eux, ils ont eu une plateforme, et à cause qu'ils ont eu une plateforme, ils ont créé un personnage qu'on n'a jamais vu avant. Un exemple, c'est Miss Marvel, qui a été créée par deux musulmanes.
Oui.
Et ça a très bien vendu. Comme eux, ils s'attendaient à faire juste 3 livres et que ça va être terminé là. Mais maintenant, ça vend encore. Ça va très, très bien encore. Parce qu'il y a un marché pour ça et il n'y a personne qui est en train de faire des jeux pour le marché musulman. Et ce n'est pas juste des musulmans qui achètent ça. C'est parce que c'est une histoire originale. Mais c'est une histoire que personne ne raconte. C'est une histoire d'une fille pakistanaise qui habite aux États-Unis, qui a des pouvoirs et qui a aussi des coutumes traditionnelles. Et c'est pas quoi faire avec les deux. Elle a des parents un peu stricts, mais en même temps qu'ils l'adorent, et elle a des pouvoirs, et est-ce qu'elle va sauver des gens, et est-ce qu'elle va désobéir ses parents? C'est des bonnes questions.
Non, mais tu soulignes un bon point. C'est d'abord, souvent, c'est des belles opportunités justement de raconter des histoires différentes. Et je parle pour mon expérience personnelle. Malheureusement, c'est encore plus dans le domaine du cinéma ou du documentaire, mais souvent, de voir des films qui viennent d'autres cultures, c'est juste un bon véhicule pour comprendre une autre situation, pour comprendre une autre culture. Et ça me déçoit d'une certaine manière du jeu vidéo qui étant interactif et immersif, ça serait encore un meilleur véhicule pour s'immerser dans d'autres cultures, mieux comprendre des situations. Et je trouve qu'on fait tellement peu à date justement par le fait que, des fois, on croit que ça va vendre plus parce que tout le monde est blanc.
Ouais.
Mais des fois aussi, je crois que le sentiment, c'est que maintenant aussi, il y a des développeurs, un peu comme tu as mentionné, des fois, qui ont peur d'aller dans ces territoires-là. Ouais. Et je sais pas pour toi, mais je suis de l'avis que je crois que c'est davantage important que les gens s'essaient. Puis prennent des conseils.
Absolument.
Et peut-être, oui, des fois, tu vas faire des erreurs ici et là, mais au moins, tu vas avoir essayé de diversifier. Puis ça, je crois que c'est la clé.
Je suis 100% d'accord. Et en plus, peu importe votre budget, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui va vous aider à répondre des questions. Fait que si les gros studios de AAA, pour avoir quelqu'un qui va venir vous donner conseils sur leur culture, c'est vraiment pas cher. Dans le budget, ça va coûter même pas une fraction d'une fraction. Et pour les studios indie, tu vas facilement trouver quelqu'un qui va faire gratuitement juste parce qu'il veut se faire représenter. Fait que même si vous avez peur. Si c'est la raison que vous voulez pas le faire, vous allez pouvoir faire ça avec des conseillers. C'est vraiment simple, c'est pas difficile.
Si je lance une idée de même, si vous êtes d'une ville moyennement grosse qui a une certaine diversité culturelle, vous pouvez aller voir des gens de la communauté, des fois vous informer, puis je pense que le monde, au contraire, va être très heureux d'être représenté dans les médiums.
À 100%, c'est mon expérience de toute façon.
Oui, non, c'est ça. Parce que là, le grand danger qu'on a, puis on en parlait entre deux segments, c'est que si on fait rien que des jeux représentent notre situation personnelle, après ça, t'as une autre génération qui va être exposée à ça. Je trouve que c'est un cycle qui va jamais se terminer. Si les gens sont pas exposés à de nouvelles affaires, ils n'auront pas non plus un appétit pour être exposés à des nouvelles affaires.
Donc... Absolument. Et c'est dangereux pour tout le monde. Là.
Oui.
La xénophobie, c'est mauvais. C'est juste quelque chose qui va will drag us down.
Oh, et qui va nous vraiment... Ça élève personne, ça aide personne, et ainsi de suite. Non, définitivement. Comme tu dis, tu as quand même été exposé à beaucoup de personnes à cause de ces conférences-là. Tu as dit que tu as eu des retours à date. Quelle a été ta plus grosse surprise par rapport aux retours que tu as eu des gens? Y a-t-il quelque chose particulièrement qui t'a marqué? Ou...
Mais oui, le IGDA, c'est le International Game Developers Association. Ouais. Après, ils m'ont contacté pour me demander si je voulais commencer un chapitre pour les musulmans. Et j'ai dit oui, j'ai accepté. Parce que, honnêtement, j'étais surpris que ça fait des années et qu'il n'y en avait jamais un. Et aussitôt que j'ai j'ai dit aux gens que ça, c'est quelque chose qui existe, j'ai beaucoup de personnes qui se sont joints au... à notre groupe secret, disons.
Oh!
et tout le monde a les mêmes intentions. Et on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on parle juste à comment améliorer l'image des musulmans et de faire qu'on est plus représenté. Et ça, ça a changé dans quelques semaines très rapidement. Les alliés, ça m'a surpris aussi. Il y a tellement de gens qui sont venus à mon conférence qui ne sont pas musulmans. Vraiment, la grosse majorité. Je savais pas à quoi m'attendre parce que moi, dans leur place, si j'ai entendu que quelqu'un va donner une conférence sur la représentation musulmane, moi, en tant que musulman, je veux voir qu'est-ce qu'il y a. Je savais pas si j'allais avoir 200 musulmans qui vont être là et que ça va être pour rien parce qu'ils savent déjà. Mais non, les musulmans étaient en minorité, je pense, parce qu'ils le sont déjà dans l'industrie en minorité. Je pense sur les 200 personnes qui étaient là, peut-être une dizaine étaient des musulmans et le reste, c'était juste des alliés. Et ça m'a surpris aussi. Ça continue à me surprendre que c'est juste une réaction positive à date.
Ouais.
Et je ne savais pas si ça allait être le cas.
Sinon, justement, tu es en contact un peu plus dans le contexte de cette organisation secrète-là. As-tu un bon sens de qu'est-ce qui se fait en termes de production de jeux, exemple au Moyen-Orient, dans le Maghreb, tout ça? Parce que moi, j'ai entendu notamment, c'est quoi, c'est en Iran, qu'il commence à avoir une bonne scène de développement de jeux.
Absolument.
Qu'est-ce qui se passe là-bas?
C'est juste le début pour moi. Ça fait quand même un peu de temps qu'ils ont commencé, mais pour moi, c'est la première fois que j'étais exposé à ça.
Ouais.
Dans notre groupe, oui, il y a des gens qui viennent de ces pays. Il y a un game jam qui vont dans le monde arabe qui va se faire en août.
Okay.
Je sais que ça, c'est immense. Ils ont des milliers de participants.
Wow.
Ça m'a surpris. Apparemment, tous les pays musulmans, même l'Irak, ont une communauté de développeurs.
Okay.
J'ai rencontré quelqu'un de là et c'est ça, il m'a parlé de tous les jeux qui sont sortis. Ils sont vraiment au début, parce que c'est quelque chose qui n'existait juste pas il y a 5 ans. Fait qu'ils sont en train d'apprendre et faire les mêmes bêtises que tout le monde fait. Mais c'est normal.
Ça fait partie de ce processus.
Mais il apprend plus rapidement parce que tout le monde a déjà passé dans ça, fait que c'est comme les indies quand ils ont commencé ont tout fait les mêmes fautes, les mêmes erreurs, mais maintenant c'est des différentes erreurs qu'on fait que aussi la même chose, ils commencent en tant que de communauté, ils poussent peut-être pas leur jeu en tant que polish autant qu'ils doivent, mais peut-être c'est une bonne chose parce que comme ça ils vont faire plus de jeux et l'apprentissage va venir plus rapidement.
À date, est-ce qu'il y a des traits, est-ce qu'il y a des gens qui reviennent, si mettons qu'on part à la production occidentale, est-ce qu'il y a des
oui.
Les
jeux en Iran spécifiquement sont plus abstraits et artistiques. Je suis pas sûr pour quelle raison.
Okay.
Historiquement, ils ont vraiment beaucoup de ça dans leur architecture. Peut-être c'est ça, mais aussi ils ont beaucoup d'images de l'histoire avec des personnages aussi. Je suis pas sûr pourquoi ils sont allés dans une direction que l'autre, mais il y a beaucoup de jeux que tu le regardes et c'est même la thème est abstrait et le style artistique est abstrait et ça c'est peut-être 80% des jeux qui viennent de là. Okay. Fait que c'est une thème mais c'est intéressant aussi.
Oui, non, définitivement. Bon, sinon, comme on a sous-entendu, tu as quand même beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a des trucs dans le futur qui pourraient t'intéresser aussi en tant que projet au-delà du festival, au-delà de ce nouveau groupe-là? Est-ce que tu as d'autres initiatives que tu voudrais mettre en place?
Oui, mais je suis pas sûr si j'ai le droit de...
Ah, pas trop! Comme on l'a sous-entendu, tu es vraiment occupé, donc j'imagine que tu dois avoir une destination où est-ce que tu partages tout ça. Tu as un site web actuellement qu'on peut aller voir pour voir ce qui se passe?
Mon site web, c'est osamadoreas.com. C'est okay. Plutôt juste où je parle de toutes les choses que je fais. Mais aussi, je suis actif sur Facebook et sur Twitter.
Okay.
J'accepte tout le monde sur Facebook. Ouais, plus ou moins. mais sur Twitter, bien sûr, n'importe qui, c'est pas privé. Et c'est Osama Dorias, un mot. Et aussi, j'ai un Instagram, mais c'est juste des photos de mes enfants. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Mais okay. Normalement, c'est juste pour la famille. Mais oui, mon site web parle de tous les projets que j'ai faits et c'était quoi mes responsabilités là-dessus. Mais je suis plus actif sur Facebook. Je pense que ma génération, c'est normal qu'on soit plus actif sur Facebook. Et j'ai jamais eu un Snapchat.
Non, ça, j'allais dire, la prochaine étape serait peut-être Snapchat, mais bon. Puis justement, dans ton avenir, j'imagine qu'il va y avoir une autre édition du film qui s'en vient notamment.
Oui, absolument.
Donc, sinon, y a-t-il un autre projet qui s'en vient ou là, on est dans il va falloir attendre?
Oui, je suis en train de faire un nouveau projet avec mon partenaire qui a commencé le festival avec moi, Salim Larachelle, mais je suis pas sûr si j'ai droit d'en parler encore.
On va jouer sûr et ne rien dire, mais peut-être ça va nous donner des plans futurs.
Merci.
Un gros merci pour ton temps. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
C'est à moi de te remercier,
Patrick. Ah, très bien. Nous voilà de retour à l'appartement. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Moi, je l'ai très clairement apprécié. J'imagine que ça s'entendait. C'est tout le temps plaisant de passer un bon moment avec Osama. Je vais y aller avec mes responsabilités de fin d'épisode maintenant. Donc, tout d'abord, c'est votre premier contact avec Poutina 2. Bien évidemment, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette fantastique série. Donc, il y a deux moyens pour le faire. D'abord, si vous êtes une utilisatrice ou un utilisateur des produits Apple, je vous invite très fortement à aller sur Apple Podcasts, rechercher Poutina 2 et appuyer sur le bouton d'abonnement. Si vous n'êtes pas dans l'écosystème Apple, pas de problème, vous avez tout simplement à visiter le radiokawa.com, aller dans la section et utiliser le fil XML qui est disponible sur notre page d'émission. Je crois d'ailleurs que nous avons aussi d'autres boutons pour différentes applications de podcasting telles Pocket Cast. Évidemment, Poutina 2 est présent sur les réseaux sociaux, donc vous avez tout simplement à chercher Poutina 2 soit sur Twitter, soit sur Facebook. Pour vous aider, je peux vous donner l'identifiant, c'est-à-dire à commercial, P-O-U-T-I-N-E-A-D-E-U-X, Poutina 2 dans le même point de texte, et vous allez pouvoir vous connecter avec nous. À quoi ça sert? C'est assez simple. Lorsque nous préparons nos épisodes, nous aimons bien ça vous impliquer dans le processus, vous inviter à poser des questions, émettre des commentaires, suggérer des thèmes de discussion. Donc, nous faisons assez souvent ça. Et on sert bien évidemment aussi des médias sociaux pour annoncer les nouveaux épisodes. D'ailleurs, si vous êtes un peu plus de la vieille école comme moi et que vous avez un peu peur de ces médias sociaux qui apparemment sont en train de déchirer le civisme dans nos sociétés, vous pouvez aussi utiliser une adresse de courriel au Poutina 2 à commercial radiokawa.com. Soit dit en passant, Poutina 2 s'écrit exactement comme notre identifiant de réseaux sociaux. J'aimerais y aller avec les remerciements. Donc, très évidemment, j'aimerais remercier Osama pour son temps. C'est un homme très, très, très occupé. Donc, comme vous pouvez vous douter, je suis très, très reconnaissant d'avoir pu passer ce petit peu de temps-là avec Osama. J'aimerais aussi, bien évidemment, remercier Benji Pes pour l'identification audio de Poutina 2, ainsi que Julien Bro pour l'identification visuelle. Évidemment, il y a un autre épisode de Poutina 2 qui se prépare actuellement. Cet épisode sera disponible le mercredi 22 août 2018. Et bonne nouvelle, cette fois-ci, c'est Odile qui va s'occuper de cet épisode-là. Donc, si vous étiez tanné de m'entendre ainsi que Greg, ça va amener un peu plus de variété. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la prochaine. Au revoir. Thank you.
Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro d'étolier. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'étolier, une émission Radio Kawa.
Mais faut quand même faire un peu gaffe aux fautes d'orthographe.
Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'Expression. C'est le podcast Travail et langue française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce ? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.